Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 11 mars 2024. Au Tchad, le premier ministre de la junte, Succès Masra, candidat à la présidentielle.
C'est une grande première que le premier ministre et le président de la République qui sont supposés exécuter le même programme politique, les deux se présentent l'un contre l'autre.
La réaction à Ndi dans la partie magazine. Après le coup d'état de 2023, la communauté des États d'Afrique centrale réintègre le Gabon. Au Burundi, l'opposant Agathon Rwasa écarté de la tête de son parti. Le Ramadan commence lundi dans plusieurs pays musulmans, dont le Sénégal. Port-au-Prince, la capitale haïtienne en état de siège, évacuation des diplomates occidentaux. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le premier ministre Succès Masra a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le point avec Rosine Monezero.
Je réponds présent comme candidat à l'élection présidentielle pour réparer les cœurs et réunir le peuple, a lancé Succès Masra lors d'une réunion d'investiture. C'est une candidature prétexte car il faut d'autres candidats contre M. Déby pour dire qu'il y a un jeu démocratique, a déclaré Kelma Manatouma, chercheur et professeur de sciences politiques à l'université d'Ndjamena. M. Masra répond à ceux qui lui reprochent d'avoir rallié la junte que c'était un accord de réconciliation nationale, un accord des braves. Le candidat du parti, un nouveau jour, Dr Nasra Dimanskar, qui se présente pour la première fois à l'élection présidentielle, estime que c'est la même situation précaire que vivent les Tchadiens depuis plus de 60 ans et c'est cette précarité qui veut changer. Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 15 mars, à 4 jours de la fin du dépôt des dossiers. 8 personnalités ont officiellement déposé leurs dossiers. D'autres personnalités politiques pourront annoncer leur candidature dans les jours qui suivent et la Cour constitutionnelle a jusqu'au 24 pour publier la liste des candidats retenus.
Au Burundi, le principal parti d'opposition a été divisé en deux dimanche. Une faction du parti a déclaré avoir évincé son chef, Agathon Rwasa, pour n'avoir pas réussi à unifier les deux camps. Idriss Fall.
Monsieur Rwasa a été démis de ses fonctions de chef du Conseil national de la liberté, un parti suspendu lors d'une assemblée générale qui s'est tenue dans le nord du pays sous forte présence policière. L'ancien chef rebelle âgé de 60 ans a été remplacé par Nestor Girukwisa Kaye, cadre supérieur dans une entreprise publique. Créé en 2019, le CNL a été suspendu l'année dernière par le gouvernement qui l'a accusé d'irrégularité. Le secrétaire général du parti, Simon Bizimungu, a déclaré que la révocation de M. Rwasa est une violation de l'article 47 des statuts du parti qui stipule que seul le président et son représentant légal légitime sont autorisés à convoquer une telle réunion. Il a accusé le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, d'avoir refusé à M. Rwasa de tenir sa propre assemblée générale le 2 mars, mais d'avoir donné l'autorisation à un petit groupe de 10 dissidents d'organiser cette mascarade pour nous voler notre parti. Agathon Rwasa est arrivé deuxième derrière le président Evariste Ndayishimiye lors des élections de 2020, que l'opposition a toujours qualifié d'irrégulière.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé qu'elle réintégrait le Gabon, suspendu au lendemain du coup d'État de l'armée qui avait renversé le 30 août 2023 le président Ali Bongo Ondimba dans un communiqué dimanche. Éric Manirakiza nous en dit plus.
Les chefs d'État ou leurs représentants des 11 pays de la CEAC réunis samedi lors de leur sommet annuel ordinaire à Malabo en Guinée équatoriale ont décidé de lever la suspension de la participation du Gabon selon le communiqué final lu sur le site internet de l'organisation régionale dimanche. Cette réintégration a été décidée compte tenu des avancées significatives dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel marqué par l'adhésion du peuple et la mise en place d'un chronogramme pour une transition de 24 mois selon le communiqué. Mi-novembre, le gouvernement nommé par le général Oligui Nguema avait confirmé la durée de 24 mois pour la transition en détaillant un calendrier jusqu'à des élections législatives présidentielles en août 2025. Samedi, il a confirmé la tenue d'un dialogue national inclusif qui doit rassembler du 2 au 30 avril toutes les forces vives de la nation pour élaborer notamment une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum.
En Afrique du Sud, le parti d'opposition Inkatha Freedom Party a lancé dimanche de manière spectaculaire sa campagne en vue des élections générales du 29 mai en rassemblant une foule immense de partisans dans un stade de Durban au cœur du pays Zoulou, sa base électorale. C'est la première fois que le parti nationaliste, arrivé quatrième aux dernières élections générales en 2019, participe à une élection nationale depuis la mort en septembre à 95 ans de son président fondateur, Mangosuthu Buthelezi, qui a dirigé le mouvement d'une main de fer pendant plus de 40 ans. Les quelques 27,5 millions de Sud-Africains inscrits sur les listes électorales doivent voter le 29 mai pour renouveler leur parlement, qui désignera ensuite le prochain président. Au Soudan, le général Yasser al-Attar, haut gradé des forces armées soudanaises, a fait savoir dimanche qu'il n'y aura pas de trêve au Soudan pendant le mois du Ramadan si les forces de soutien rapide ne quittent pas les maisons et les sites des civils. Cette déclaration fait suite à un appel lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur d'une trêve pendant le mois sacré des musulmans. Les RSF, pour leur part, avaient déclaré qu'ils se félicitaient de cet appel au cessez-le-feu. La déclaration de M. Attar, publiée sur le compte Telegram de l'armée, avertit aussi que Mohamed Hamdan Daglo, le chef des paramilitaires, ne devrait jouer aucun rôle dans la politique ou l'armée du Soudan à l'avenir. En Libye, trois leaders clés ont déclaré dimanche qu'ils s'étaient mis d'accord sur la nécessité de former un nouveau gouvernement unifié qui superviserait les élections dans l'impasse depuis 2021. Les trois dirigeants, Mohamed Menfi, président du conseil présidentiel, Mohamed Takala, chef du Haut Conseil d'État, tous deux basés à Tripoli, et Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants à Benghazi, ont déclaré qu'ils avaient convenu de former un comité technique pour examiner les points de divergence. Dans une déclaration commune, les trois dirigeants ont également appelé la mission des Nations Unies en Libye et la communauté internationale à soutenir leurs propositions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, la capitale Port-au-Prince continue de s'enfoncer dans les violences liées aux gangs. Les États-Unis ont annoncé hier avoir évacué une partie du personnel de son ambassade et renforcé les équipes en charge de sa sécurité. John Lydon.
L'augmentation de la violence autour de l'ambassade américaine et de l'aéroport a conduit le département d'État américain à prendre des dispositions permettant le départ de certains membres du personnel de l'ambassade. Les bandes criminelles, qui contrôlent la majeure partie de la capitale et les principales routes, s'en prennent depuis plusieurs jours aux commissariats, prisons et tribunaux en l'absence du Premier ministre Ariel Henry, dont elles réclament la démission. Ariel Henry, aux dernières nouvelles, est bloqué dans le territoire américain de Porto Rico après un voyage à l'étranger. Le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence dans le département de l'Ouest qui comprend Port-au-Prince et un couvre-feu nocturne difficilement applicable par des forces de l'ordre déjà dépassées par les gangs. Les administrations et écoles sont fermées à Port-au-Prince. L'aéroport et le port ne fonctionnent plus. La communauté des Caraïbes a convié des représentants des États-Unis, de la France, du Canada et de l'ONU à une réunion d'urgence ce lundi en Jamaïque. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son accord il y a des mois à l'envoi d'une mission de paix dirigée par Nairobi, mais son déploiement se fait toujours attendre.
Les bombardements israéliens ont fait des dizaines de morts dimanche dans la bande de Gaza, où le Ramadan commence sans accord sur une trêve entre Israël et le Hamas, pendant que la communauté internationale tente d'envoyer de l'aide à la population frappée par la famine. L'armée américaine a dépêché un navire pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, a annoncé dimanche le commandement central américain, quelques jours après que le président Joe Biden a annoncé la construction d'un port temporaire sur la côte méditerranéenne de l'enclave palestinienne. Le gouvernement sud-coréen a annoncé ce lundi qu'il avait entamé une procédure pour suspendre les licences de plus de 4 900 jeunes médecins ayant cessé le travail pour protester contre une réforme des études médicales. Et puis, culture, l'Oscar de la du meilleur film est revenu ce dimanche à Oppenheimer, du moins, chef-d'œuvre du réalisateur britannique Christopher Nolan. Ce film a aussi remporté 6 autres statuettes. Et pour son jeu dans ce film, l'Irlandais Cillian Murphy a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Le coût du projet de construction du Radisson Blu à Yaoundé au Cameroun a été revu à la hausse de plus de 13 milliards de francs CFA pour un total de 50 milliards. En termes d'espace, le projet a plus que doublé pour atteindre 9000 m² et un parking plus grand. Le complexe hôtelier 5 étoiles, dont la construction a débuté en octobre 2022, devrait ouvrir ses portes en 2026. Il comprendra plus de 200 studios et appartements haut de gamme. Radisson Hotel vise à doubler son portefeuille d'unités hôtelières en Afrique de l'Ouest et centrale d'ici 2030. EcoCloud et le groupe émirati d'intelligence artificielle G42 ont signé un protocole d'accord à Nairobi pour développer le premier centre de données géothermiques au Kenya. Le méga-centre devrait avoir une capacité initiale de 100 MW avec le potentiel d'augmenter jusqu'à 1 GW. Les conditions météorologiques globalement sèches début 2024 en Afrique australe associées au phénomène climatique El Niño devraient aggraver l'insécurité alimentaire dans cette zone, a prévenu la FAO. Des zones de culture majeures au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe n'ont reçu que 80% des précipitations moyennes entre la mi-novembre 2023 et février 2024, explique l'agence onusienne dans un rapport.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Rouget et bonjour à tous.
Du basketball à la une, et c'est l'Angola qui va abriter le prochain Afro-Basket senior masculin.
Oui, après 1989, 1999 et 2007, l'Angola abritera en 2025 une nouvelle édition, soit 18 ans après la dernière à domicile au total. Ça lui fera une quatrième édition à la maison. FIBA Afrique a donc décidé de confier l'organisation de la plus grande compétition en Afrique au pays des Palancas Negras qui était en compétition avec le Maroc et l'Égypte. A noter que 16 équipes seront qualifiées pour cette CAN prévue en août 2025.
Au niveau des clubs, c'est le début des qualifications de la Basketball Africa League.
La quatrième saison qui s'ouvre en Afrique du Sud, un nouveau format. 3 conférences désormais, Kalahari, Nil et Sahara. Un choix qu'explique Amadou Galofal, le président de la BAL, au micro d'Amedine Si.
Ça fait pendant un moment qu'on travaillait sur cet événement. La saison 4 de la BAL qui commence avec cette nouvelle conférence de Kalahari. Une saison qui va nous permettre d'amener l'expérience de la BAL dans 4 pays. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'en Afrique du Sud, beaucoup de choses vont démarrer ici. Nous avons lancé le Basketball Without Borders Camp en 2003. Ici, on a ouvert le bureau de NBA Afrique. Ici, on a organisé 3 matchs de NBA Africa Game à guichet fermé. Le dernier match en 2018, justement, avait eu lieu dans cette arena, la Sunbet Arena. Alors, revenir en Afrique du Sud et on voit déjà l'engouement, en tout cas, qui se traduit par le fait qu'on va jouer à guichet fermé. Et voilà, il y a de l'énergie, il y a de l'intérêt, il y a de l'enthousiasme pour le sport ici en Afrique du Sud en général, le pays qui a organisé la Coupe du Monde de foot en 2010. Nous sommes vraiment très emballés de regarder de très bonnes compétitions avec 4 équipes qui vont se disputer les qualifs pour les finales.
Et c'est bien parti pour les Marocains du FUS. 2 victoires en 2 matchs. Proche aussi pour les Angolais du Petro de Luanda qui se sont relancés après avoir battu 188 le club hôte, les Cape Town Tigers. Et après cette conférence Kalahari, la balle ira au Caire fin avril pour la conférence du Nil et enfin à Dakar pour la conférence Sahara début mai. Et pour finir, la phase finale, elle reste prévue à Kigali au Rwanda du 24 mai au 1er juin.
Et pendant que la balle débutait, les Jeux africains lui emboîtaient les pas au Ghana.
Une 13e édition qui bat son plein avec la 3e journée ce lundi. Et au programme, on aura entre autres du football féminin avec 2 belles affiches, Nigeria, Sénégal et Cameroun, Maroc. On suivra également du cyclisme avec la course en ligne, du beach volley, du tennis de table, de la natation ou encore de la lutte.
Page de sport VOA Afrique signée Élisée Oumpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les années passent, mais les lamentations sont restées les mêmes. Le Ramadan a démarré ce lundi, mais les ménages sénégalais font face au perpétuel casse-tête de la cherté des produits alimentaires. Notre correspondant dans la capitale sénégalaise a rencontré Sokhna Gueye, un jeune marié dans un marché de Dakar. Reportage.
Les années passent, mais les lamentations sont restées les mêmes. Le Ramadan a démarré ce lundi, mais les ménages sénégalais font face au perpétuel casse-tête de la cherté des produits alimentaires. Sokhna Gueye, jeune marié, rencontré dans un marché de Dakar. Le marché est dur parce que tout est devenu cher. Chaque année, les prix grimpent. Il faut que les autorités pensent aussi à nous. Avant, on pouvait tout acheter avec 5 000 francs, mais maintenant, avec cette somme, on ne peut plus avoir du poisson, de l'huile ou du riz. Et les commerçants sont souvent pointés du doigt. Mais dans ce marché de la banlieue dakaroise comme ailleurs, vendeurs et acheteurs partagent les mêmes complaintes. Khalifa Diahaté et Alioune Dramé, commerçants. Il y a souvent des frictions avec les acheteurs, mais c'est à cause de la cherté des produits alors que les gens n'ont pas d'argent. Si vous venez avec 5 000 francs alors que le kilogramme de viande coûte 4 000, ça pose forcément problème. Si tu dépenses 5 000 ou 10 000 francs pour un produit, tu ne vas pas le brader. Actuellement, tout a augmenté dans ce pays. L'électricité, l'eau, tout. Le loyer, n'en parlons pas. Pour autant, les autorités se veulent rassurantes. Les tendances sont à la baisse et aucune inquiétude pour l'approvisionnement du marché en cette période de Ramadan. Ansoumana Sané, directeur général de l'Agence de régulation des marchés.
Fondamentalement, les Sénégalais peuvent être rassurés quant à la disponibilité des produits, mais surtout quant à leur accessibilité en termes de coûts. Aujourd'hui, pour les produits de première nécessité comme le riz, le sucre, l'huile, l'oignon, la pomme de terre, la structure des prix est assez satisfaisante.
Quoi qu'il en soit, les ménages sénégalais en demandent plus. Des doléances qu'ils aimeraient bien voir les candidats à la présidentielle en tenir compte. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, ouvert le 6 mars dernier, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 6 mai se poursuit jusqu'au 15 mars. À 4 jours de la fin du dépôt des dossiers, 8 personnalités politiques ont déposé leurs dossiers, dont le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre, Succès Masra. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Moi, Mahamat Idriss Déby Itno, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni.
Par cette déclaration, le général Mahamat Idriss Déby Itno se lance dans une compétition où lui-même a nommé la quasi-totalité des juges au départ et à l'arrivée. Son premier ministre, Dr Succès Masra, vient de le rejoindre sur la liste. Il a été investi candidat du peuple par une convention populaire.
Déterminé à porter ce pays à une nouvelle dimension, pour ce Tchad-là, moi, Matra, je m'engage à vos côtés. Et nous sommes candidats pour devenir le prochain pilote principal du pays. Oui, nous sommes candidats au nom du peuple.
Le chef de la transition dit qu'il est candidat d'une coalition de plus de 200 partis politiques et des organisations de la société civile, et non le candidat investi par le MPS, le parti de son défunt père. Le chef du gouvernement, lui, est candidat du peuple et non du parti Les Transformateurs. Pour l'ancien ministre de la Justice, professeur Ahmad Mahamat Hassan, tous deux innovent de façon négative.
Maintenant, ils répondent à la candidature d'une coalition hétéroclite entre partis politiques et société civile qui n'ont pas en principe pour objectif juridique et constitutionnel de participer au débat politique. Ce cas de figure n'a jamais été prévu par le code électoral ni par la Constitution. Finalement, il ne peut avoir que le statut de candidat indépendant. Est-ce que les citoyens, par une pétition ou chacun écrit pour soutenir la candidature de Mazra Cissé, ils sont en train d'innover en négatif, et lui et son président.
C'est une nouveauté, dit-il, dans l'histoire de la politique tchadienne.
C'est une grande première que le premier ministre ministre et le président de la République qui sont supposés exécuter le même programme politique. Les deux se présentent l'un contre l'autre. Et donc la conséquence voulait que c'est le nommé qui démissionne. Mais comme il s'agit d'un premier ministre de la transition, il n'a pas d'autre programme politique que le cahier des charges de la transition, mais il est nommé par le président. S'il décide de se présenter aux élections présidentielles, c'est à lui de démissionner avant. Le président ne démissionne pas, il est désigné par le dialogue et donc qui lui donne un minimum de légitimité, même s'il s'agit d'un coup d'État institutionnel. Maintenant, les enjeux, c'est que cette élection-là consacre le retour à l'ordre constitutionnel. En d'autres termes, il s'agit de légitimer la prise de pouvoir et la conservation de pouvoir depuis 1990 par la même famille, le même clan qui prend en otage le peuple tchadien depuis 1990, un pouvoir gagné par les armes et le sacrifice du sang.
Le candidat du parti Un Nouveau Jour, Dr Nasra Dimassendar, qui se présente pour la première fois à l'élection présidentielle, estime que c'est la même situation précaire que vivent les Tchadiens depuis plus de 60 ans.
S'il n'y a pas de bruit de canon pendant une semaine, ce sont des communautés qui s'affrontent. Le sang qui a coulé dans cette nation a obscurci le soleil qui devrait éclairer notre nation. Nous disons plus jamais ça. Et c'est cela qui justifie notre engagement en tant que candidat aujourd'hui.
Pour l'instant, 8 candidats sont en liste pour briguer la magistrature suprême. D'autres personnalités politiques pourront annoncer leur investiture dans les jours qui suivent. Et la Cour constitutionnelle a jusqu'au 24 mars pour publier la liste des candidats retenus. André Kodoma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Gabon, un an après le naufrage d'Esther Mirak, les survivants ont commémoré le premier anniversaire de cette catastrophe survenue le 9 mars 2023 au large de Libreville. Plusieurs fonctionnaires du ministère gabonais des Transports ont été interpellés pour des enquêtes pénales, mais un an plus tard, les lignes n'ont pas bougé. Le navire faisait la navette entre Libreville et Port-Gentil. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangnze.
161 passagers étaient à bord, 34 personnes sont mortes noyées, 7 sont toujours portées disparues et 124 ont été sauvées in extremis par l'équipage d'un autre bateau. Le commandant Jérôme Joël Mugula Sigila, le héros de cette nuit apocalyptique.
Ça a été facile pour nous de prendre la décision de faire demi-tour pour aller chercher, rechercher ceux-là qui étaient en détresse. Il a été d'autant plus difficile à moi et à mon équipage de partir du lieu du sinistre, sachant que il y avait des noms qui n'était pas accroché sur la liste.
Depuis un an, Zita vit avec la peine. Son fils de 29 ans, jamais retrouvé, fait partie des victimes du naufrage.
Je vous jure que les jours de cauchemar sont toujours là, les heures à laquelle il m'appelle pour me dire « Maman, c'est le Titanic ici ». Je vis le Titanic, ces mêmes heures retentissent comme si c'était devenu un réveil dans mon organisme. Et je fais comme ça. Il y a des périodes même que vous faites 2-3 jours, je ne dors pas.
Autant de victimes qui ont pour certaines perdu une ou plusieurs personnes. Elles réclament justice. Chanty Moussavou est orpheline de père et de mère. Tous morts dans ce naufrage.
Pour certains d'eux, on a besoin d'explications. Aujourd'hui, ça m'a fait du bien de pouvoir rencontrer certaines personnes, notamment le commandant du bateau, Céleste, qui est venu au secours de ces personnes qui sont restées les naufragés. Mais également, nous voulons avoir des explications, avoir un procès, avoir une explication.
Arrivé au pouvoir il y a 6 mois, les autorités de la transition se consacrent à redonner à ce secteur ses lettres de noblesse. Lieutenant de vaisseau Crépin Mofumbi Mangara, conseiller technique maire du ministre gabonais de la marine marchande.
Nous aurons donc une entité opérationnelle qui pourra réagir efficacement en cas de catastrophe en mer, ce qui a manqué pendant le naufrage Esther Mirak, parce que pendant ce naufrage, il n'y avait pas ce mécanisme.
Les enquêtes diligentées par le pouvoir des Chiefs se font attendre. Le collectif des familles de victimes demande aux nouvelles autorités la construction d'une stèle sur le site du drame en mémoire des disparus, un accompagnement psychosocial des rescapés et une prise en charge de nombreux orphelins depuis cet accident. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, certains ménages et communes optent de plus en plus pour l'éclairage à partir de l'énergie solaire. C'est une nouvelle expérience dans un pays miné par des coupures tempestives de l'électricité. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolentap.
Depuis que je suis ici, vraiment, l'énergie dérange beaucoup. Comme actuellement, il n'y a pas l'énergie. Depuis hier soir, nous sommes dans le monde.
Monique Ngono réside au quartier Colbisson dans le 7e arrondissement, à proximité de la bretelle qui conduit à l'entrée de l'autoroute reliant Yaoundé à Douala. La mairie a installé des plaques solaires le long de cette bretelle, au grand bonheur des riveraines comme Monique.
Cette plaque solaire nous aide beaucoup, parce qu'il nous arrive parfois, tu rentres du travail un peu tard, et parfois tu trouves qu'on a coupé l'énergie. Et ça nous aide beaucoup, par rapport par exemple aux agressions.
Pauline est une jeune cadre de la Poste. Elle habite dans le 4e arrondissement. Ici, les coupures du courant sont fréquentes. Pauline a dû s'offrir deux lampes solaires.
J'ai visé pour un investissement à long terme, puisqu'on est dans une logique où les délestages sont fréquents, surtout en cette saison de pluie. Si chaque jour il faut acheter une bougie, le danger que représente déjà la bougie déjà dans la maison, pour l'oxygène, pour la santé, les accidents qui peuvent survenir, j'ai préféré éviter ça. Avec deux lampes, c'est suffisamment éclairé pour la maison et pour tout le monde.
Ce que vous savez, parce qu'en lisant d'ici dans le club,
en fond, dans la banlieue de Yaoundé, Salomon s'informe à partir d'un poste récepteur rechargeable à l'aide d'une plaque solaire incrustée.
Et nous sommes tout le temps quand même sujet à des coupures en énergie électrique. Donc, quand c'est coupé, vous ne savez pas quand ça va revenir. Donc, avec ça, on a l'assurance quand même que, bon, on peut rester connecté, on peut suivre les informations.
Le marché du solaire a maintenant pignon sur rue à Yaoundé. Les lampadaires, projecteurs ou encore des ampoules solaires sont exposées à proximité des édifices ministériels. Paul Nassiri, vendeur.
Donc pour les plaques solaires, il faut faire un bilan de puissance de votre maison. Donc ce que vous voulez alimenter, appareil, tout appareil confondu. Bon, vous payez, on vous fait un dédit aussi. Et puis on vous remet avec tous les accessoires qu'il faut. Et puis on installe.
À une échelle plus élevée, des locaux sont promoteurs des structures qui offrent des services sur l'énergie solaire. Darius Sapdion est promoteur depuis 5 ans.
À partir de 100 000, 120 000, 150 000, 200 000, soit 300 000 même et dans la marge là, pour avoir une installation qui peut alimenter déjà quelques ampoules et le téléviseur. En ville, généralement, les gens ont des forages, mais quand il n'y a pas d'énergie, ils sont en manque d'eau. Alors avec le système solaire qu'on installe, ça permet que le client puisse avoir son eau 24 sur 24. Ceux qui sont en ville, qui ont déjà l'énergie Eneo par exemple, nous on se contente d'installer un système anti-délestage qui permet qu'en cas de coupure d'énergie, ça prend le relais automatiquement, de façon manuelle, ça dépend de comment on va faire l'étude et du besoin du client.
En septembre dernier, le gouvernement a inauguré deux grandes centrales solaires d'une capacité cumulée de 30 MW pour alimenter les villes de Guider dans la région du Nord et de Maroua dans l'extrême Nord. Yaoundé, Emmanuel Jolentap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Fagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
I found the love.